Chapitre 25, où l'on verra paraître et disparaître plusieurs héros. Ici, Madame d'Héricourt est interrompue par Thérèse, qui donne une lettre à Jeannette. Jeannette, par discrétion, veut en remettre la lecture à un autre moment. Sa mère l'engage à satisfaire sur-le-champ sa curiosité. « C'est, mon enfant, lui dit-elle, c'est sans doute une lettre de Cécile, de ton amie. » « Non, madame, je le croyais d'abord, et mon cœur palpitait déjà bien délicieusement, mais cette lettre est d'une écriture qui m'est absolument inconnue. Vous le permettez? Voyons de quelle part elle me vient. » Jeannette lit tout haut. « Mademoiselle, je suis la propriétaire de la maison où vous demeuriez à Paris avec Mademoiselle d'Ascourt. » Jeannette s'interrompt. D'Ascourt, ma mère, est le nom que Mademoiselle d'Héranville avait pris dans cette maison pour ne pas compromettre celui de sa famille livrée à l'indigence. Poursuivons. Avec Mademoiselle d'Ascourt. Excusez-moi si j'ai le courage de vous affliger en vous apprenant un événement affreux. Votre amie, elle n'a pu ni recevoir ni lire une seule de vos lettres. Le jour même de votre départ, que dis-je, c'était le soir, un exempt est venu, chargé d'un ordre pour enlever Mademoiselle d'Ascourt pour la conduire dans une prison d'État. L'exempt et sa suite me l'ont ravi, mademoiselle. Ils l'ont arraché de mes bras. J'ignore où ils l'ont conduite. Bien loin, sans doute, car ils parlaient de 100 lieues au moins. Le lendemain, j'ai voulu faire savoir cette nouvelle à M. de Verneuil, votre ami, mais il était parti pour le grand voyage qu'il méditait. Un incident avait pressé son départ. Je n'ai pu trouver de défenseur à cette jeune personne, victime sans doute d'une erreur, car elle est si sage, si modeste, c'est un ange qu'on persécute. Pardon, mademoiselle, si j'ai pris la liberté de décacheter votre dernière lettre, mais je ne pouvais vous laisser ignorer l'accident arrivé à votre ami et qui doit bien affecter votre sensibilité. J'ai l'honneur d'être, etc. Phare, veuve Aubry. Qu'on juge de l'état de Jeannette après la lecture de cette fatale lettre. Cécile enlevée par un exemple. Conduite, on ne sait où. Et le jour même du départ de Jeannette. Elle a quitté son amie au moment du malheur. Et qui la poursuit donc? Pourquoi? Qui sont les barbares? Jeannette se livre au désespoir et veut partir sur le champ pour Paris. Il faut qu'elle s'informe de son amie, qu'elle la retrouve. Madame d'Héricourt emploie toute la force de sa raison et de sa prudence pour calmer sa fille éplorée. Elle en vient à bout, mais Jeannette persiste toujours dans son projet d'aller à Paris. Madame d'Héricourt y consent et veut même l'accompagner. Mais la journée est avancée, il faut remettre ce voyage au lendemain matin. Que ce délai paraît long à Jeannette, il est forcé néanmoins, il faut y souscrire. Madame d'Héricourt, la voyant un peu consolée, reprend en ces termes le fil de sa narration. « Mon récit ne sera pas long, mon enfant. Peut-être t'intéressera-t-il peu à présent. Cependant, je te crois assez de fermeté pour faire trêve un moment à ta douleur. Les malheurs de ta famille doivent te toucher autant que ceux de tes amis. » Et d'ailleurs, il est important que je te révèle le secret de ta naissance afin que tu puisses te soumettre ensuite à ce que j'attends de toi. Nous étions donc à Paris, Félix et moi, heureux, tranquilles et moins époux qu'amants, lorsqu'un jour que je me trouvais seul, je vis entrer 2 militaires qui, d'un air cavalier et sans m'ôter leur chapeau, me demandèrent si c'était la demeure de M. Félix d'Héricourt. « Oui, messieurs, il n'y est pas. Il va rentrer dans l'instant. Nous allons l'attendre. » Ces 2 insolents s'asseyent, ricanent, et, me fixant, l'un dit à l'autre « C'est la petite dont on nous a parlé. Qu'en dis-tu, Roland? Et toi, Octave? Elle n'est pas mal. Oui, pour un caprice. » La rougeur couvre mon front et je suis prête à tomber en faiblesse lorsque Félix entre et reste frappé d'étonnement en reconnaissant ses 2 frères. « Vous ici ?» leur dit-il avec fierté. « Tu vois, nous venons te faire un compliment sur ta conquête. Elle est gentille, mais cela n'est pas sérieux sans doute. Très sérieux, et je vous prie de cesser ou de vous retirer. » « Doucement, Nous sommes chargés de l'ordre de notre père, qui est à Paris avec nous et qui vous rappelle près de lui. Mon père est ici. Il vous ordonne de nous suivre. Ciel, jamais! Sans quoi, monsieur, une bonne lettre de cachet lui répondra de vous et de cette fille. Sortez, méchant, sortez et allez dire au barbare qui vous envoie que rien ne brisera le nœud qui m'attache pour jamais à cette estimable personne. Les frères vont répliquer, mais un autre militaire se présente et sa vue accroît mon trouble et la confusion de Félix. C'est Briceval lui-même. C'était la journée aux surprises. Te dire, Jeannette, comment tous ces importuns avaient découvert notre asile et se rencontrer là par hasard en même temps seraient entrés dans des détails minutieux et que les probabilités des événements de la vie doivent te faire deviner. Briceval entre donc et je m'écrie « Mon frère !»« Son frère ?» reprend Roland d'Héricourt. « Quoi ? C'est cette petite roturière à qui la mère de monsieur a donné le jour ?»« Et cette femme serait notre sœur ?» ajoute Octave en écumant de rage. Félix reste anéanti tant de l'imprudence de ses frères que de l'aspect imprévu de son ami qui l'a trahi. Briceval reconnaît les frères de Félix, il les fixe avec indignation, puis, se retournant vers Félix, il lui dit avec douceur « Est-elle en effet ton épouse ?»« Elle l'est, » répond timidement Félix. « Eh bien, j'approuve ces nœuds, » reprend Briceval, « et je les soutiendrai contre tous les insolents qui oseront y trouver à redire. »« Sortons, mon frère, » interrompt Octave, « laissons ces gens s'enorgueillir du déshonneur de notre famille. » Ils sortent et Briceval, les suivant jusque dans l'escalier, leur crie « Je vous retrouverai, messieurs !» Briceval, seul avec nous, nous adresse d'abord de justes reproches, mais il se calme enfin. « Et comment, nous dit-il, comment, ingrat que vous êtes, n'avez-vous pas eu assez de confiance en moi pour me révéler votre secret ? Croyez-vous que je n'eusse pas consenti à votre bonheur ? Et ne savez-vous pas que moi-même j'ai été sensible à l'amour ? Apprenez que je suis, comme vous, mais en secret aussi, époux et père. Oui, j'ai un fils de 2 ans et j'ai épousé une femme charmante, mais dont la naissance est bien plus obscure que celle de Roselle. » Tu me regardes, Félix, et tu as peine à croire, toi qui me quittais rarement, qui voyageais avec moi, que j'ai pu, pendant ce temps, filer une intrigue. Félix, le même préjugé qui t'engageait à me cacher ton amour pour ma sœur, me forçait au silence avec toi. Nos cœurs étaient dignes de s'entendre, mais ils se taisaient. Venez donc dans mes bras, couple heureux et que j'aime, venez embrasser un homme qui est encore plus votre ami que votre frère. Nous serrons contre nos 2 cœurs ce généreux parent, et notre bonheur n'est troublé que par les terreurs de Félix à la seule idée que son père est à Paris. Il ignore son adresse, ses frères sont partis sans la lui donner. S'il savait où trouver ce père irrité, il irait se précipiter à ses pieds, il tâcherait d'obtenir son pardon. Mais où est-il ? Circonvenu par Octave et Roland, il est capable de se porter aux dernières extrémités envers Félix qu'il n'a jamais aimé. Quelle situation ! Briceval passa la journée avec nous et, à son départ, mon époux se sentit plus de courage, plus de fermeté à braver les coups du sort. Le lendemain matin, nous reçûmes cet affreux billet de Briceval. « Je suis perdu si je ne fuis, Félix. Hier soir, tes 2 frères que j'ai rencontrés m'ont insulté. Je les ai défiés, ils m'ont attaqué ensemble et comme des lâches. » J'en ai couché un sur le carreau, l'autre est grièvement blessé. Ils ont crié à l'assassin. Je n'ai eu que le temps de me sauver. Je pars, je ne sais où je vais, je crains tout de la vengeance de leur père. Tâche de t'y soustraire, car dans son désespoir, il est capable de tout. Adieu. Cette fatale nouvelle me priva de toute connaissance. J'étais enceinte, je te donnais le jour, mon enfant, 1 mois avant le terme chrétien. 1 mois avant le terme prescrit à ta naissance. Juge de l'embarras de mon époux. Il fait soudain baptiser sa fille et revint chez lui, mais, ô surcroît de douleur, la maison est pleine d'archers. Un exemple montre à Félix une lettre de cachet. On demande l'époux, l'épouse, jusqu'à l'enfant. C'est une confusion, un désordre épouvantable. Mon époux prend soudain un parti violent, il écrit une lettre, la déchire en deux, en donne la moitié à Ferrand, son domestique. « Prends ce papier, lui dit-il si bas que je ne pus l'entendre. Porte-le avec l'enfant aux enfants trouvés, c'est le seul asile sûr que je puisse lui donner contre la rage de ses persécuteurs. Un jour, nous le retrouverons peut-être. » Ferrand s'échappe en secret avec l'innocente créature. Il court comme un fou. Mais dans le parvis Notre-Dame, il s'imagine qu'il est poursuivi. La frayeur s'empare de ses sens. Il n'a pas la force d'aller jusqu'à l'hospice et dépose l'enfant, le papier, dans la première allée qu'il trouve ouverte. Il en sort comme un insensé, revient chez son maître, apprend qu'il est enlevé par les gens de justice et se sauve pour jamais de la maison, jusque dans son pays, ici, près de Chartres, où il raconte tous ces événements à son frère Jacques. En effet, à peine Ferrand était-il parti, que mon époux fut entraîné par l'exemple et sa cohorte, il ne put que me crier « Rozelle, Rozelle, ne sois pas inquiète de ta fille, elle est en sûreté, un jour !» Il ne put m'en dire davantage, en sorte que j'ignorais longtemps ce qu'était devenu mon enfant. Quelle secousse pour une femme qui vient de donner le jour à un être! Je restais longtemps dans le délire du désespoir, et sans doute, sans cet état cruel dont mes bourreaux eurent quelque pitié, les monstres m'auraient fait partager le sort cruel de mon époux. Je dus mon rétablissement aux soins de quelques voisins charitables, et quand je retrouvai ma raison, j'appris, par une lettre de mon époux, qu'il était enfermé à Saint-Lazare par le fait de son père, qui en avait obtenu l'ordre injuste et barbare. Mon époux m'écrivait que toutes ces lettres étaient lues et qu'il ne pouvait me donner d'autres détails que ceux qu'on lui permettait de me transmettre. Il m'apprenait qu'on ignorait l'asile où s'était caché Briceval, que Roland, tué par lui, était mort sur le champ, mais qu'Octave, blessé seulement, l'avait accusé d'assassinat. Son père avait intenté un procès criminel par contumace au prétendu assassin et, vu le rang de M. d'Héricourt et de ses protections, tout portait à croire qu'il obtiendrait un jugement avilissant pour Briceval et sa famille. Mon époux ne me disait point où il avait mis sa fille dans l'excès de son désespoir. Il pensait, sans doute, que je connaissais son asile par Ferrand, qu'il présumait toujours près de moi. Mais ce domestique avait disparu dès le jour de notre malheur et j'étais plongé dans la plus cruelle ignorance sur le sort de mon enfant. Je répondis à Félix, mais ma lettre ne lui parvint point et l'on poussa la cruauté jusqu'à intercepter toutes les siennes. Je fus averti aussi qu'il y avait du danger pour moi à rester à Paris. Dès lors, aidé d'une amie rare qui avait quelques modiques rentes et un peu de terre dans la Picardie, je fus m'établir avec elle dans les environs d'Amiens. J'espérais obtenir un jour la liberté de mon époux et je cherchais partout des protections. Mais l'innocence en trouve-t-elle? 4 années s'écoulèrent, au bout desquelles j'appris la mort du père de mon époux. Ce vieillard, depuis quelque temps, semblait avoir abandonné le procès qu'il faisait aux contumaces Briceval. On me dit même que ce dernier, plus tranquille sur les suites de ce procès, était revenu à Paris, où il demeurait du côté du faubourg Saint-Germain, avec son fils seulement, car il avait perdu son épouse. Je revins alors à Paris moi-même, où je fis l'impossible pour découvrir mon frère. Mais toutes mes recherches furent infructueuses, et comment, en effet, trouver quelqu'un qui se cache dans cette grande ville? Je fis de nouvelles démarches pour obtenir la liberté de Félix, et je l'eus à la fin. Mais, ô regret, Félix, affaissé sous le poids du malheur, était hors d'état d'en profiter. Un mal incurable le conduisait insensiblement au tombeau, et, au moment où j'allais l'arracher de sa prison, je reçus de lui cette lettre, les derniers mots qu'il ait pu tracer. « J'apprends, ma chère Rozelle, que mon père est mort et que mon frère Octave s'est emparé de tous ses biens. On m'assure aussi que tu peux briser mes fers. Oh, ma digne épouse, comment t'apprendrai-je le coup qui va me frapper? Garde, garde tes soins pour notre enfant que tu peux maintenant retirer de son triste asile. » Je meurs, j'expire, ma Rozelle, et quand tu recevras cette lettre, peut-être ton époux aura-t-il cessé d'exister. Je meurs, mon ami, victime de l'amour, victime surtout de la rigueur d'un père trompé. Hélas, il m'attend, ce n'est que dans l'autre vie qu'il connaîtra le cœur de son fils. Adieu, Rosaëlle, adieu pour jamais. » Cette lettre fut un coup de foudre pour moi. Je me rendis à la prison où l'on m'apprit que je venais de perdre mon époux. Dans ma douleur, je voulus aller accabler de reproches l'infâme Octave. On m'en empêcha, mais des gens qui suivirent mes affaires forcèrent ce frère cupide à restituer la moitié de l'héritage de son père. Il y fut contraint et s'en vengea en renouvelant le procès criminel que son père avait intenté à mon frère. Octave avait découvert à Paris l'asile de Briceval. Ce dernier se sauva et échappa une seconde fois au piège que lui tendit son ennemi. Mais, hélas, Octave gagna son procès et Briceval, quoique absent, fut condamné à une fin infamante. Je t'épargne, Jeannette, le détail des pleurs que je versais en apprenant cette triste nouvelle. J'étais alors à la campagne. Briceval, qui, par le bruit qu'avait fait mon procès avec Octave, avait découvert mon asile, vint m'y trouver avec son fils, âgé de 6 ans et demi environ. Nous pleurâmes longtemps ensemble, et ce fut à cette époque que Jules Briceval, frère aîné de l'infortuné, revint des îles, possesseur d'une fortune considérable. La voix publique lui apprit nos malheurs et l'opprobre qu'une injuste condamnation répandait sur son nom. Il vint me voir, gronda d'abord, mais convaincu de l'innocence de son frère, il le consola et jura de tirer vengeance de son ennemi. Briceval ne put survivre à sa honte. Nous le perdîmes chez moi. Il expire de douleur dans mes bras après nous avoir demandé, pour faveur dernière, que, si nous retrouvions jamais ma fille Jeanne-Victoire d'Héricourt, elle fût unie à son fils. Il en donna même l'or à ce jeune enfant, à genoux près de son lit, et Briceval mourut, persuadé qu'un jour prospère me rendrait ma fille et que je réparerais tous les maux que je lui avais causés par mon secret mariage en unissant ces deux enfants du malheur. Dès qu'il eut fermé les yeux, Jules, mon frère aîné, se chargea de l'éducation du jeune Briceval, son neveu. Il prit cet enfant avec lui, et pour se soustraire à l'opprobre dont son nom était entaché, il en changea, en donna un supposé à l'enfant et l'emmena voyager avec lui. Ainsi, je restai seul à ma douleur, à mes regrets. Un événement vint accroître ma fortune. Octave, ce méchant frère de mon époux, fut tué en duel. J'ai toujours soupçonné Jules d'avoir vengé Briceval, et mon contrat me donnant des droits à sa succession, je me vis l'héritière de toute la fortune des d'Héricourt. J'étais riche, Jeannette, mais toujours malheureuse. J'ignorais ce qu'était devenue ma fille, mon époux était mort et n'avait point découvert l'asile au fond duquel il l'avait caché. Cependant, il y a 2 ans de cela tout au plus, j'étais venu me fixer ici dans cette ville lorsqu'un homme pâle, défait, vint un jour se jeter à mes pieds. « Et quoi ? » s'écria-t-il, « est-ce Madame d'Héricourt que je vois ? Ah, que vous allez soulager mon cœur, chargé depuis longtemps du poids d'un remords bien cruel. Reconnaissez Ferrand, madame, l'ancien domestique de votre époux, celui à qui, dans un moment affreux, il confie à votre enfant nouveau-né. » Ému, j'interroge cet homme. Il m'apprend l'abandon de ma fille. Je cours à Paris, je m'informe à l'hospice des enfants trouvés. On me dit qu'on a confié mon enfant aux soins de 2 époux, dont on me donne le nom, l'adresse. Je vole chez M. d'Héranville, on ne sait ce qu'il est devenu, non plus que son épouse, ni sa fille, ni cette même Jeannette, orpheline, élevée par eux et qu'on a bien connue. Toute cette famille est ruinée, me dit-on, plongée dans le malheur, il y a tout lieu de croire qu'elle a quitté Paris. Juge de ma douleur, Jeannette. Je reviens ici, Ferrand n'existait plus, mais Jacques, son frère, m'apprend qu'une ex-religieuse est venue chez lui et lui a dit connaître ma fille. Je gronde cet homme de n'avoir pas pris de plus amples informations. Enfin, je me résigne, j'attends du sort qu'il te rende à ma tendresse, et le ciel, enfin, a daigné m'accorder cette faveur. Voilà, Jeannette, le secret de ta naissance et le douloureux récit des malheurs de ta mère. Une autre fois, tu sauras ce qu'elle attend de ta docilité, de ta délicatesse. Il est tard, Jeannette. Demain, nous voyageons. Je remets à un autre jour les détails que je dois te donner avant de te prescrire mes volontés.